graffiti. 19, 20 heures.
Tu vas au boulot, tu marches seul.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M. Y a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. S'il faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur votre radio préférée, Graffiti. La radio vendéenne, la radio associative, la radio solidaire, la radio culturelle, la radio pluriel. Ce soir, vous êtes en direct donc du plateau pour votre émission féministe préférée. Après la radio préférée, il y a l'émission préférée, l'émission féministe préférée, votre mensuelle Histoire de femmes. Nous sommes le mercredi 3 septembre et moi c'est Audrey, j'anime cette émission, je ne suis pas toute seule, je vais vous en parler. C'est la rentrée, nous avons fait une pause estivale et nous voilà de retour. Je vous rappelle que nous avons sur les réseaux sociaux vous pouvez nous suivre. Nous sommes sur Facebook, nous avons une page Histoire de Femmes, sur Instagram, Histoire de Femmes aussi, et puis bien sûr sur le site de Graffiti, www.graffitiradio.fr, sur lequel vous pouvez retrouver les podcasts dès le lendemain de l'émission, et aussi, vous les retrouvez aussi sur Spotify et sur Apple Podcasts. Et si vous voulez témoigner, puisque le principe de l'émission, je le rappelle, ça, c'est la première de la rentrée, c'est d'avoir un ou une invitée qui vient raconter une histoire de femme. Son histoire, si c'est une femme, et l'histoire d'une femme que l'on connaît, que l'on a envie de raconter, si vous êtes un homme. Les hommes sont les bienvenus, sans aucun problème. Et donc, un témoignage qui peut être drôle ou pas. Ça peut être une histoire d'amour, après tout, pourquoi pas, une passion pour le sport, une entreprise qui a été créée, un défi incroyable, enfin incroyable ou un défi qui a été relevé, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus triste. Donc si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, contactez-moi sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, je pense qu'on va passer bientôt à l'invité, mais...
J'ai perdu le tapis.
C'est pas grave.
J'enchaîne.
Voilà, ça, ce sont les aléas du direct.
Non, mais c'est de ma faute. J'ai arrêté le compteur. Je le dis, j'assume.
Alors, ce soir, c'est une invitée que nous recevons. Vous la découvrirez dans quelques minutes. Mais laissez-moi d'abord vous parler d'elle en quelques mots. C'est une jeune lyonnaise. Elle se lance des défis. Elle les relève. Elle est très jeune. Ça ne l'arrête pas. Son leitmotiv, faire la différence. Et elle a une furieuse envie de réussir. Elle chute, elle se relève, pour mieux chatouiller nos narines et nos palais. Je lui donne la parole dans quelques instants. Vous retrouverez aujourd'hui les chroniques mensuelles d'Annie à 19h30 et 20h, sexisme, justice. En fin d'émission, nous accueillerons Tiffaine du collectif Nous Toutes pour une lecture d'extraits d'ouvrages féministes. Il y aura plusieurs pauses musicales qui ponctueront l'émission, mais ce soir... Ce n'est pas Alexandra, qu'on embrasse bien fort. C'est pas Alexandra qui est à nos côtés, mais c'est Sandrine de l'émission Gay Friendly qui se joint à nous. Bonsoir Sandrine.
Oui, bonsoir à tout le monde. Merci.
Tu vas bien?
Oui, alors désolée pour la boulette de talent. C'est que j'ai baissé...
Non mais ça se paye. Hein.
Oui, mais il n'y a pas de souci. Non mais j'étais concentrée à passer le générique, puis j'ai appuyé où il ne fallait pas. Donc,
Voilà.
J'adore cette chanson, elle est très bien.
Mais on peut compter sur personne, c'est tout. Enfin voilà.
Ça devrait faire pour le reste, c'est bon.
Merci en tout cas Sandrine.
Non, mais c'est normal, bonjour à Alexandra, bonjour ouais. À Annie, bonjour à l'invité, enfin voilà, bonjour à tout le monde. Et on est bien en direct avec vous jusqu'à 20h30, je tiens à le préciser.
Absolument. Une petite erreur sur le générique.
Et juste pour préciser, parce que c'est quand même moi qui a fait la playlist, à part la chanson de l'invité ce soir, ça va déménager et il y a de tout. Donc
c'est
voilà.
C'est exactement ce qu'on attendait de toi, Sandrine.
Non, mais voilà, t'as dit libre arbitre, j'ai choisi les barbettes.
C'est très bien.
C'est très bien. Surprise.
Merci, donc un gros bisous, Alex. Je suis sûre que tu nous écoutes, et si ce n'est pas aujourd'hui, tu vas nous écouter en podcast. Annie, bonsoir.
Bonsoir Audrey.
Alors, de quoi tu vas nous parler? Est-ce que ça va être sympa ou pas, tes chroniques? Enfin, comme d'habitude.
Ça, je vous laisserai juger. Hein.
C'est marrant, j'ai le sentiment que ça ne va pas être très drôle. Hein.
Moi aussi. On verra. En tout cas, ça fait bien plaisir de vous retrouver. De retrouver l'émission, la radio, l'ambiance. J'essaierai de pas trop la casser, l'ambiance, mais bon, avec des chroniques justice et sexiste, vous avouerez que c'est parfois compliqué. N'empêche, on fera des petites rétrospectives sur les mois d'été.
Donc, t'as bossé pendant tout l'été,
et qu'on
toi
a tout juste vu passer. Eh ben oui, j'ai bossé tout l'été. Mais pas sur les chroniques. Hein.
Est-ce que. Non, mais Audrey, on est du direct. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je remette un tapis?
Ouais, avant qu'on lance le cœur de l'émission. C'est ma faute, je ne t'avais pas dit avant. Mais ça me revient, tu vois, c'est en direct, ça me revient comme ça.
Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je mette? Je vois un tapis de fin. Alors, moi, ouais, je pense que je ne veux pas te mettre un tapis de fin. Tu veux que je te mette un tapis de fin?
Je ne sais pas. Alex, reviens.
Le problème, c'est que j'ai.
Mais non, mais c'est pas grave. Je peux chanter sinon, si vous voulez.
Après, on peut te mettre une musique, hein, si tu veux. Faire une pause, c'est aussi bien. Hein.
Non, c'était pas parce que je. Bah, allez, vas-y. On n'a pas commencé l'émission qu'on fait déjà une pause.
Il y a 10 minutes.
À on va commencer par. Elle n'existe pas pour l'instant.
Elle n'existe pas. Ok, elle n'existe
je
pas.
Je ne l'ai pas présentée encore, hein, donc on parle d'invité.
On va bifurquer alors la musique. On va garder la musique de l'invité pour un plus tard.
Oui.
Ça te va?
Oui, bien sûr.
Je suis en train de faire une manip.
Oui. c'est de ma faute, Sandrine. C'est de ma faute.
Non, mais la preuve que c'est du direct. Et c'est ça qui est bon, en fait. C'est juste ça. Est-ce que vous connaissez le groupe Sexy Sushi?
Oui.
Alors,
oui.
Moi, je trouve qu'elle est d'actualité en ce moment, cette chanson. Rachida, ça vous dit quelque chose, la musique?
Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Non, j'ai un doute.
Alors, cette musique a été faite quand Rachida Dati était au ministre de la Justice.
Ah, Rachida Dati. Ok, j'étais en train de chercher dans les artistes, moi.
Voilà.
Ah oui, bah, Rachida Dati, oui.
Elle, cette musique, Sexy Sushi, l'a fait pour elle.
Oh là. Ok,
donc,
ça ne doit pas être celle que je connais.
C'est un programme. C'est tout un programme. Je trouve qu'elle correspond parfaitement à l'actualité parce qu'elle revient un petit peu dans l'actualité.
Ah bon.
Rachida, et vous savez que si vous suivez un petit peu ce qui se passe au gouvernement, c'est compliqué. Donc voilà.
Oui, c'est compliqué.
Donc j'ai choisi cette musique qui est assez. Qui veut parler d'elle-même. Voilà. Je vous la
vas-y,
pose tout de suite.
Vas-y, lance. Allez.
Bon, allez, c'est parti.
Bonne écoute.
Justice girl, les sceaux de la nation.
Merci beaucoup Sandrine pour ce morceau d'anthologie, je ne sais pas comment le décrire.
C'est Sexy Sushi, c'est Rachida, c'est une musique qui date d'une dizaine d'années, mais qui avait fait un carton à l'époque.
Ok, ouais. Bon, bah, merci, et puis pour tous ceux qui découvrent ce morceau, moi la première d'ailleurs, toi aussi.
Pareil, ouais. Bon, je ne connaissais pas.
Donc, pour rappel, vous êtes sur Graffiti, l'émission Histoire de Femmes. Eh oui, il y a quand même quelque chose. Je fais durer le suspense avant de donner la parole à Adèle et avant de vous... Mince, je viens de le dire.
Oh là là, après, le suspense est brisé.
C'est bon, allez, tant pis. Écoutez, c'est la rentrée. On a eu un été extrêmement chaud. Moi, ça m'a un peu, ça m'a un peu perturbée au niveau cérébral. Et ça s'entend. C'est la rentrée aussi. Donc, au niveau du travail, voilà, c'est fatigant.
Plus chargé.
Et puis, bah, je sais pas, c'est l'âge peut-être.
Les hormones.
Les hormones. Ouais, c'est peut-être ça. Donc, voilà, je suis... Bon, je vais essayer d'être sérieuse quand même. Donc, je vous ai parlé de notre invitée du mois. Je vous ai dit qu'elle était lyonnaise, qu'elle était très jeune. Je vous parlais de défis. J'ai parlé de narines et de papilles. Bonsoir, Adèle.
Bonsoir, Audrey.
Tu vas bien?
Très bien, et toi?
Très bien, merci. Et alors, Adèle, nous t'avons invitée dans l'émission et tu as tout de suite dit oui. Nous avons échangé à ce sujet. Pourquoi est-ce que tu as dit oui? Et puis, qui es-tu, en quelques mots?
Alors, j'ai souhaité raconter mon histoire car je trouve ça assez intéressant de parler des parcours des femmes, plus particulièrement, surtout... aujourd'hui.
Oui.
Et moi, donc, j'ai ouvert un restaurant il y a quelques années.
Alors, tu as quel âge? J'ai dit très jeune, mais je n'ai pas donné ton âge, je crois.
J'ai 23 ans.
Ok.
J'ai lancé mon restaurant à 21 ans.
Waouh. Donc, à La Roche?
À La Roche-sur-Yon, effectivement, en centre-ville.
Ouais.
J'ai procédé à toutes les demandes de financement à partir de 19 ans. Donc, je me suis lancée assez jeune dans tout ça.
Alors, tu avais une formation en gestion, en quelque chose?
Absolument pas. J'ai aucun diplôme.
Donc, comme ça, bille en tête. Pas de diplôme?
Pas de diplôme, que de l'expérience du terrain.
Alors, quelle expérience tu avais à 19 ans, à 20 ans?
J'ai commencé très jeune. J'ai arrêté mes études autour des 15 ans. Et en fait, je me suis directement lancée dans la restauration, qui m'a permis de m'y consacrer totalement à mes 17 ans.
Donc, qu'est-ce que tu as fait dans la restauration?
J'ai commencé par les saisons,
ouais.
Dans les campings. Snack, bar, des choses comme ça. Et après, j'ai poursuivi par des CDI le long de l'année, qui pouvaient être en cuisine, en salle, en fait, qui me permettaient de faire plusieurs apprentissages différents et d'être polyvalente. J'ai toujours aimé beaucoup travailler, le rythme assez intense, donc j'ai toujours un petit peu enchaîné très rapidement les différents postes dans chaque entreprise, car la restauration, c'est
ça
assez...
bouge.
Voilà.
Et donc, un beau matin, enfin, j'imagine que c'est pas un beau matin, tu t'es dit, allez... Maintenant, je veux ma propre affaire.
À la fin de ma deuxième saison, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'ouvrir mon propre restaurant un jour. Et en fait, j'ai continué à travailler dans l'objectif d'ouvrir le mien un jour. Donc, de voir tous les postes, de comprendre, de voir plusieurs façons de fonctionner au sein de plusieurs restaurants, de plusieurs régions, plusieurs villes, plusieurs concepts. Et pour toujours me nourrir de tous ces apprentissages et d'ouvrir un jour mon propre restaurant.
Et alors, quand tu as vraiment concrètement voulu y aller, j'imagine que tu as eu besoin d'argent, à moins que tu aies hérité, je ne sais pas. Mais...
Totalement, j'ai fait une demande qui a été très très longue et très tumultueuse.
Auprès d'une banque, j'imagine?
Auprès de plusieurs banques.
Ah ben oui, parce qu'ils ont vu arriver, la gamine de 19
c'est
ans,
ça, exactement.
Qui n'a pas fait d'études comme tu le dis toi-même,
totalement.
Qui n'a pas d'expérience en gestion,
c'est
et qui demande de l'argent.
Totalement.
Donc ça s'est passé comment alors?
Ça s'est passé que tout le monde a refusé mon prêt, jusqu'à la septième demande.
Ok. Comme ça, c'est sur une période de combien de temps tout ça, à peu près?
De 6-7 mois.
D'accord, oui, donc c'est raisonnable en tout cas.
Assez raisonnable.
J'imagine que ça va être très stressant
c'est
de l'autre côté, mais...
Moi, j'avais investi beaucoup, beaucoup de travail, donc au long de toutes mes activités, de mes saisons, je travaillais en plus sur le projet que j'avais étudié de fond en comble. Il n'y avait pas une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Donc j'arrivais devant les banquiers très, très confiante et très... Je savais exprimer mon projet, mais le fait était que mon âge, le fait que je sois une femme pouvait être aussi, et seule, pouvait être un peu compliqué pour certains.
Donc tu l'as senti, le fait que tu sois une femme?
Bien évidemment, ouais. Ça c'est sûr que...
Tu es tombée que sur des hommes en face ou le regard était le même de la part de femmes?
Je suis tombée sur une femme,
ouais.
Qui a refusé mon projet et le dernier demande de financement a été faite par une femme.
Celle qui a été acceptée donc?
Celle-là.
D'accord. Donc tu sentais ce regard un peu condescendant du vieux mâle riche blanc.
Certains. Oh, le cliché. Quelque chose. Des fois les clichés.
Mais moi aussi, hein, je suis dans les stéréotypes et dans la discrimination du vieux mâle blanc.
Ça a pu arriver malheureusement que.
Non mais je plaisante, c'est pas parce qu'on travaille dans une banque qu'on est riche, hein, on est bien d'accord. Hein. Et puis c'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'est pas sexiste. Non, pardon, c'est pas parce qu'on n'est pas blanc, je veux dire, qu'on n'est pas sexiste non plus. Enfin bon, bref.
Toutes les combinaisons possibles. Tu as...
Je me suis lancée dans un truc, là, si on fait toutes les combinaisons, on va pas y arriver, il n'y aura pas assez de temps d'émission. Donc, tu sentais ce côté condescendant, un peu paternaliste de l'homme sur la femme, de l'homme plus...
Je pense
ils étaient beaucoup plus âgés, ou tu avais des jeunes aussi dans les hommes?
J'avais quelquefois des personnes moins âgées,
oui.
Mais en fait, c'est surtout aussi le combo, je pense, jeune plus femme.
Oui.
J'étais seule.
Ouais.
Beaucoup
investi. Oui, il n'y avait pas un homme sur qui t'appuyer.
C'est double... ça, et ça, je pense que c'est un peu joué.
Double discrimination.
D'accord. Double discrimination.
Ah, oui. Ouais. Et tu ressortais donc à chaque rendez-vous de plus en plus déprimé, ou tu t'accrochais à l'idée que de toute façon le prochain rendez-vous serait le bon? Enfin, comment c'était dans ta tête à ce moment-là?
Les demandes se font, les accords, les réponses se donnent toujours quelques semaines après.
Oui.
Donc les banquiers se montraient toujours à peu près confiants,
oui.
Mais au final finissaient par me refuser. On était aussi dans une situation économique et mes demandes de financement qui ont été très délicates.
Oui, parce que du coup c'était il y a 4 ans, 3-4 ans.
Pendant le Covid?
Non, c'était il y a 2 ans.
Oui.
C'était juste après.
Juste après le Covid.
Oui, c'était juste après
un
le Covid.
Un peu après encore.
Ouais, d'accord. Okay.
C'était septembre à décembre 2024.
D'accord. Okay.
Donc c'était une période qui était absolument pas propice. Beaucoup de financements étaient refusés.
Mm-hmm.
Et ce qui a été potentiellement délicat aussi pour moi comme pour d'autres.
D'accord. Ok. Et donc finalement, il y a donc une énième banque.
J'ai fini par tout abandonner. J'ai appelé les comptables. J'ai appelé le fonds de commerce que je visais. Pour leur dire que c'était terminé, qu'il ne me restait qu'une demande, que les 6 dernières avaient été refusées, que c'était terminé. Et le lendemain, j'ai eu un appel de mauvaise qualité en plus, où je n'entendais pas vraiment bien au téléphone, qui m'a dit que c'était bon. Il me suivait que si je changeais le nom de mon commerce, entre guillemets, donc une pacotille, entre guillemets. Et donc, ça a commencé comme ça et j'ai eu un mois et demi pour ouvrir mon restaurant.
D'accord. Alors donc, le commerce en question, c'est un restaurant. Tu as parlé avant de nous parler du restaurant, tu as mentionné un comptable. Donc ça veut dire que tu as demandé à un comptable de t'aider à monter le plan financier?
On n'a pas le choix. Pour lancer son entreprise aujourd'hui, il nous faut un prévisionnel. Pour le présenter aux banques avec un appui du coup, comptable très formel. Il faut aussi un avocat pour les potentielles démarches, car en général, lors de l'accord, on a très peu de temps pour ouvrir le restaurant. Donc il faut que tout le juridique soit fait. Il faut aussi un juriste. Et... Donc, il y a tout à mettre en place avant même d'avoir les accords.
Et ça, rencontrer un comptable, tu as fait ça, donc c'était en amont, des rendez-vous à la banque. Et ça a été long aussi, j'imagine que tu n'as pas été... comment ça s'est passé? Tu n'as pas pris un rendez-vous avec un comptable, ça y est, tu y vas, et puis le dossier est ficelé. J'imagine qu'il y a plusieurs échanges.
Non, ça se passe assez rapidement, on explique. Après, on crée avant. Nous, tout le prévisionnel, tout le business plan, tout ce qui est du projet, du concept, on met tout sur feuille avant.
Donc c'est toi qui as fait ça avant. Alors comment t'as fait pour faire un business plan si t'as pas fait d'études en gestion et si t'as pas d'expérience en gestion de structure?
J'ai travaillé beaucoup dans la gestion de restaurants avant de me lancer.
D'accord.
Donc j'ai été manager, responsable dans les équipes de direction, ce qui m'a permis d'avoir déjà une visibilité du terrain. Et pour la suite, Internet, la demande à mes patrons.
Puis t'apprends sur le tas,
quoi. Et j'ai appris sur le tas, j'ai fait mes bilans, j'ai fait des prévisionnels.
Parce que faire un business plan, c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, d'en faire un qui tienne la route, je veux dire.
Bien sûr, mais aujourd'hui, on a beaucoup quand même d'objets en main pour pouvoir comprendre. Le tout est de comprendre, après de le réaliser. Donc je dis pas que je l'ai fait très simplement, mais je les ai refaits tous 2-3 fois. Mais,
ouais. Et entre le moment où tu t'es lancé là-dedans, t'as poser les premières pierres, pas l'idée, mais le moment où vraiment concrètement les premières pierres ont été posées et l'ouverture du restaurant sur lequel on va revenir après, il s'est passé combien de temps à peu près?
2 ans.
2 ans. Donc 2 ans
et demi.
Ouais, d'accord.
De stress.
2 ans de stress. Et pendant ce temps-là, tu travaillais
Je travaillais en saison, dans la restauration, en bar. Et pendant cette période-là, j'étais suivie par un banquier professionnel qui me guidait tout au long de mon projet, qui a fait donc mon projet avec moi, qui m'a conseillé, qui était quasiment sûr que mon projet passerait. Donc j'étais pleinement confiante la première présentation de mon dossier, qui en fait a été refusée.
Donc par la banque dans laquelle il travaillait?
Par laquelle il travaillait et par laquelle il m'a aidé à faire mon projet.
Incroyable ça.
Et j'ai jamais eu de nouvelles après. Il m'a dit non, avec 3 semaines de retard. Donc je devais avoir une réponse 3 semaines après présentation. Il a repoussé de 3 semaines. Et suite à ça, il m'a dit non. Il a pris des pincettes parce qu'il savait, en fait, on avait créé un lien finalement.
Et oui, ça venait pas de lui en fait.
Non, malheureusement, voilà, c'est pas forcément les conseillers, eux, ils peuvent nous guider, mais c'est pas eux qui décident.
Il a dû être le premier déçu parce qu'il s'est investi en fait.
Totalement. Et comme en fait, dis, à la fin, il m'a dit, c'est ça, à la fin, il m'a dit, j'ai besoin de demander conseil à d'autres partenaires puisque on a trop travaillé, enfin, on est trop ensemble, on a trop travaillé pour le projet ensemble.
Il n'avait plus de recul.
C'est ça, il avait plus assez de recul.
Ok. Ah oui, c'est ça. Il nous écoute peut-être.
Peut-être.
Ok, donc avant de parler d'avancer un petit peu plus et de, tu nous parles davantage du projet lui-même, parce que là c'est l'incubation, c'est le projet. Peut-être qu'on va écouter le morceau de musique que tu as choisi.
Ah bah c'est toi qui vas nous en parler, parce que moi je ne connaissais pas du tout.
C'est vrai.
Oui, c'est. Faut être honnête, je n'écoute pas ce genre de musique. Voilà, chacun ses goûts et couleurs. T'as découvert comment ce morceau?
Déjà, c'est quoi peut-être un morceau pour nos auditeurs et nos auditrices? Ouais. Ou alors on les laisse deviner, je ne sais pas.
C'est un morceau assez, je trouve, sympa, oui. Qui donne un peu une bonne ambiance, de la bonne humeur. Il n'y a pas forcément trop de paroles. C'est une sorte de petit remix, entre guillemets, que j'aime bien écouter quand je cuisine, justement, qui apporte un peu de motivation, de
c'est punchy dans les gens. C'est pas trop rythmé, c'est... Il y a les deux.
Je saurais pas comment le décrire réellement.
C'est de la salsa. C'est ça. C'est, voilà, ça te met...
C'est dans l'ambiance.
Cocooning, un petit peu, voilà.
Comment s'appelle ce morceau?
Je vais pas le prononcer parce que...
Adèle, peut-être?
Elle prononcera mieux que moi parce que...
C'est Val Timboca.
D'accord, voilà, ok.
Et le titre, c'est... Oui, Van Timboca, c'est...
Ça, c'est le titre.
C'est ça.
Et Trinix et Marie-Jo Frost.
C'est ça.
Je suis nulle en anglais. Je suis de la génération, j'écoutais pas les cours, moi.
Bon, voilà, alors, c'est parti. Après l'émission. Se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. Eu de sabia, sarique, caxinelê, maracajá, vou de mate, tapere, saciperê, boitatá. Voilà, c'était le morceau choisi par Adèle. Morceau,
tu peux peut-être
nous
le rappeler
dit tout à l'heure. Alors vas-y, Adèle, rappelle quel était le morceau.
Val Timboca.
Voilà. Et donc, tu as dit que ce morceau, c'était bien. Je ne sais plus exactement quel mot tu as utilisé. Quand tu faisais la cuisine.
Totalement.
Parce que depuis tout à l'heure, tu as prononcé une fois le mot restaurant. Et finalement, on n'est pas rentré dans le projet lui-même. Donc, tu fais la cuisine. Et le projet, donc, c'était un restaurant.
C'était un restaurant spécialisé.
Ouais.
Qui était, pour commencer, 100% vegan et sans gluten.
C'était un concept... Rappelez à nos auditeurs et nos auditrices ce que c'est que vegan.
Vegan, c'est sans matière animale, donc plus poussé que le végétarien. C'est sans viande, sans produits laitiers, sans œufs, sans miel.
Sans beurre.
Sans beurre, tout ce qui vient de la matière animale. Donc, vegan, en plus, c'est un mode de vie. En plus que l'alimentation.
On ne porte pas de chaussures en cuir.
Voilà, on n'utilise pas de produits testés sur les animaux, de cosmétiques, de produits ménagers. C'est très large et c'est une alimentation dite végétalienne. Et moi, en fait, mon.
Alors, vegan et végétalien, c'est la même chose. Un vegan, c'est le terme.
C'est une alimentation
anglais.
Végétalienne, mais avec une éthique de vie.
Voilà, vegan, a priori, c'est le terme qu'utilisent aussi les anglo-saxons.
C'est ça, en plus.
Et voilà. Et toi, tu es vegan ?
Moi, je suis végétarienne.
D'accord. Alors, donc la différence, on redit aux gens, le végétarien ou la végétarienne n'exclut pas tous les produits animaux, mais les animaux eux-mêmes, en fait.
C'est ça.
On ne mange pas les animaux.
Total.
Mais le beurre, les œufs.
Le fromage.
Tout ce qui n'implique pas de tuer un animal, c'est OK.
Totalement.
D'accord. Donc, toi, tu es végétarienne.
Moi, je suis végétarienne, mais j'ai souhaité, en fait, ouvrir ce restaurant pour que, justement, toutes ces spécificités et régimes alimentaires soient développés.
Mais c'est vrai qu'à La Roche-sur-Yon, des fois, il va y avoir un plat, parfois végétarien et encore. Souvent, c'est une assiette de légumes.
Alors qu'en fait, ça concerne beaucoup de personnes, parce qu'au-delà du véganisme et du sans gluten, on peut avoir toutes les personnes souffrant d'intolérance sans lactose. On peut avoir aussi les personnes souffrant d'endométriose, qui sont souvent considérées qu'elles contiennent des alimentations hors produits laitiers et gluten.
D'accord,
donc
je savais
en fait,
pas ça, ok.
Mon restaurant, je souhaitais qu'il concerne toutes ces personnes qui n'ont pas leur place dans la restauration actuelle.
Ok, c'était un pari ça.
C'était un pari.
Enfin, mais c'était d'autant plus un pari qu'on est à La Roche-sur-Yon quand même, on est en Vendée.
En Vendée. Le projet a été assez intéressant car il a été lancé sur les chapeaux de roue. J'ai eu beaucoup de monde à l'ouverture. Le problème, c'est que...
À l'ouverture, tu veux dire le jour de l'inauguration ?
Totalement.
Oui, j'étais là.
C'est vrai. Mais sur la longue durée, en fait, vouloir être trop spécialisé et pas viser exactement...
C'est-à-dire en termes de cible de population, c'était trop étroit ?
Trop large, à la fois, dans ces régimes alimentaires. En fait, les végétariens n'étaient pas contents parce que c'était végétalien. Les véganes n'étaient pas contents parce que c'était sans gluten. Les sans gluten n'étaient pas contents parce que c'était végane. Les sans lactose n'étaient pas. Et en fait, je me suis retrouvée dans une spirale où je pensais faire plaisir à tout le monde et je ne faisais plaisir à personne.
Les gens sont compliqués quand même.
Les gens sont compliqués et après la Vendée
que
est spécifique.
Les gens sont compliqués, moi je trouve. Mais non.
Après la Vendée est assez spécifique aussi. J'en ai parlé avec des restaurateurs dans le même domaine, dans des villes un peu plus grosses comme Nantes. Ils m'ont expliqué que c'était pas leur... Eux, ils n'avaient pas du tout ce genre de problématique.
Oui, c'est ça. Je veux dire, dans les grandes villes, il y en a des restaurants de ce type. Alors, c'était un petit restaurant,
C'était un petit restaurant d'une vingtaine de couverts intérieurs. J'avais une vingtaine de couverts.
C'est déjà pas mal, hein, dis donc.
C'est sûr, mais...
Alors, tu faisais la cuisine. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'avais pas de diplôme. On a parlé de gestion, tout ça.
Bien sûr.
Et en cuisine non plus, tu n'en avais pas ?
Zéro.
J'ai commencé
très jeune à cuisiner. En plus, j'ai fait beaucoup de pâtisserie. En fait, je faisais beaucoup de cuisine quand j'étais plus jeune pour mon entourage ou pour. Je faisais beaucoup les gâteaux d'anniversaire pour les anniversaires de mon entourage. Cuisinais pour les repas de famille, les réceptions. Et en fait, je me suis lancée dans la restauration où j'ai aussi travaillé en cuisine, ce qui m'a permis de perfectionner en fait pas mal de choses. Je travaillais dans des restaurants qui faisaient plus des burgers, des pizzas, plus de la restauration un peu plus.
Food.
Oui, ou même plus travailler dans un restaurant à Ajaccio notamment, où on a eu beaucoup d'expérience, enfin d'apprentissage au niveau de la cuisine traditionnelle.
Okay.
Et donc ça m'a permis en fait d'avoir vraiment une vision sur tout et de savoir réellement ce que je voulais faire. Et moi, mon but était de en fait proposer un mix des deux, à la fois du food assez gourmand, assez cheesy, et à la fois de la nourriture travaillée dans un seul et même restaurant adapté aux allergènes, choix alimentaire et intolérance de chacun.
Donc ça, cette ouverture, c'est quelle date ?
Cette ouverture, c'était le 22 mars, de mémoire.
D'accord, ok. Tu es toute seule en cuisine ?
Je suis toute seule en cuisine et j'avais deux personnes en salle qui m'aidaient en mi-temps pour remplir la semaine, pour le lancement. Quelques mois après, j'ai perdu mes deux serveuses. Enfin, j'ai souhaité continuer toute seule. Mm-hmm. Mes serveuses sont parties pour d'autres... opportunité, j'ai souhaité rester toute seule. Donc début juillet, j'ai repris le restaurant toute seule, service et salle, gestion, compta, réseaux sociaux, site web. Et début septembre, j'ai repris un cuisinier. Malheureusement, il n'a pas pu rester très longtemps parce que mon activité ne le permettait pas. Mmh. Et donc j'ai recontinué toute seule pour toute la période de décembre jusqu'à février, mars, avril. Et j'ai terminé, j'ai fermé mon restaurant fin mars.
Ok. Alors on reviendra sur cette fermeture qui n'est pas une point final. Hein. On va c'est y revenir ça. Après. D'abord, on va donner la parole à Annie. Dans quelques secondes, c'est l'heure de ta chronique. La chronique justice, la première. Hein. On te retrouvera encore à 20h pour une autre chronique. Donc préparez-vous, chers auditeurs et chères auditrices. Écoutez bien Annie.
Alors, en cette période de rentrée, je vous propose une rétrospective. J'ai du mal avec ce mot, j'aurais pas dû le mettre en fait. Donc, je recommence, je vous propose une rétrospective de l'actualité judiciaire et législative sur ces 3 derniers mois. Et oui, déjà 3 mois depuis la dernière émission. Fallait pas cligner des yeux, paf, 3 mois sont passés, paf, c'est la rentrée. Alors, je vous préviens tout de suite. Oubliez le soleil, la mer, les coquillages et les crustacés, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'on vit dans un pays où le Premier ministre couvre les actes pédocriminels des curés et ne comprend pas pourquoi les gens qu'il veut plumer envisagent de s'insurger. Voilà, c'était juste pour vous resituer, histoire de revenir à la réalité, après la douceur de l'été. Yeah, vive la rentrée! Allez, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas exhaustive, ce sera un peu moins compliqué à digérer. Néanmoins, j'émets un trigger warning, puisqu'il sera question de violences sexistes et sexuelles, et les termes qui y sont liés seront donc régulièrement employés. Commençons avec une condamnation, le 4 juin dernier, celle de l'État français, pour faute lourde. Il s'agit en réalité d'un parcours rempli de fautes, de la part de la police, qui aura finalement coûté la vie à Nathalie Debailly, assassinée en mai 2019 par son ex-conjoint. Malgré 3 mains courantes et une plainte déposée par la victime, les cow-boys de l'ordre n'auront pas entravé son bourreau avant son crime final et fatalement prévisible. La famille de Nathalie Debailly recevra 27 000 euros de la part de l'État. Si l'argent semble dérisoire dans ce contexte, la reconnaissance de la responsabilité de l'État et de l'incompétence de la police à prévenir les féminicides, souvent par incrédulité méprisante et en raison de la culture du viol entretenue au sein même des institutions, permettra peut-être de faire bouger les lignes en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Animée par cette même volonté, la famille de Patricia Gomit, elle aussi assassinée par son ex-conjoint en juin 2022, a assigné à son tour l'État pour faute lourde le 12 juin. Patricia Gomit avait également porté plainte un mois avant sa mort contre son bourreau, dont les violences avaient entraîné l'incapacité totale de Patricia à travailler pendant 3 jours. La culture du viol a encore frappé, très lourdement. Pour tenter de l'enrayer et de la remplacer par la culture du consentement, le 18 juin, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en y intégrant l'absence de consentement de la victime et en précisant que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Un petit pas dans le droit pour, on l'espère, un grand pas dans la lutte contre les VSS. Bon, là, c'était la pause bonne nouvelle pour respirer un peu. J'espère que vous avez bien repris votre souffle. Parce que si en France, on essaie d'avancer, en Louisiane, on recule. Non seulement l'avortement y est de nouveau interdit depuis 2022, mais en plus, le 3 juin dernier, cet État a rejeté, pour la 3e année consécutive, un projet de loi qui prévoyait des exceptions à cette interdiction, notamment pour des mineurs victimes de viol. Et ce, malgré l'évocation de la situation d'une enfant de 9 ans par une représentante, Patricia Moore, qui a quand même voté contre la loi, en se justifiant par ses convictions religieuses et par le fait que sa mère avait été violée aussi. Sa mère n'a pas été protégée, donc elle ne protégera pas les enfants, en gros. Je ne parviens pas à saisir, je suis désolée, mais ces gens me semblent juste complètement cinglés. En même temps, ça se passe dans un pays où, début juillet, un prédateur sexuel avéré est condamné pour transport de personnes à des fins de prostitution, mais pas pour trafic sexuel. Il avait dû cocher la bonne case du formulaire, je sais pas. Et à cause de l'administration de ce même pays, 1,4 million de femmes en Afrique vont perdre leur accès à la contraception. En effet, la folie destructrice de l'horrible pumpkin de Washington a notamment entraîné l'arrêt de l'Agence américaine de développement international, USAID. En conséquence, c'est un stock d'une valeur estimée à 9,7 millions d'euros de moyens de contraception qui risque d'être incinéré ici, en France, alors que l'ONG IPPF, donc International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire la Fédération internationale des plannings familiaux, notamment, s'était proposée pour en assurer la distribution, qui éviterait des conséquences dévastatrices au Kenya, en Tanzanie, en Zambie, en République démocratique du Congo et au Mali. Il est encore possible d'agir pour éviter cette décision d'inconscient en signant la pétition demandant au gouvernement français de s'opposer à la destruction de ce stock et d'encourager sa distribution. Vous pourrez notamment trouver le lien vers cette pétition en bio du compte Instagram du collectif Nous Toutes Nationales, Nous Toutes Org, donc sur Insta. Pour terminer, je voulais vous épargner un peu en vous remontant le moral. Une bonne nouvelle donc, trop tardive évidemment, mais... réjouissons-nous tout de même. Sainte-Lucie, État insulaire de l'Est des Caraïbes, a enfin abrogé, le 29 juillet dernier, les lois qui criminalisaient l'homosexualité. Vestige terriblement nocif de l'héritage colonial britannique, ces lois sévissent encore dans les Caraïbes, région particulièrement hostile à la communauté LGBTQI+, puisque certains pays y ont récemment confirmé en justice le maintien de ces lois. Ok, j'avoue, c'était une semi-bonne nouvelle. En fait, il nous faut absolument continuer le combat.
Bien sûr. Toute petite île, hein, Sainte-Lucie. Hein.
Ouais. Merci.
Et d'ailleurs, il y a une athlète du 100 mètres féminin aux Jeux Olympiques qui l'a super représentée. C'est juste une petite parenthèse. Mmh. Voilà.
C'est terrible ce que tu nous dis sur... Donc d'un côté la bonne nouvelle, et puis en fait le maintien, c'est effrayant. Hein. Alors je voudrais rebondir sur une chose, tu as parlé de la France... condamné dans le cadre d'un féminicide.
Ouais.
Eh bien là, on a appris aussi aujourd'hui, alors ce n'est pas un féminicide, mais que la France a aussi été condamnée par rapport à l'enquête sur l'assassinat de la petite Estelle Mouzin.
Oui.
Je l'ai appris en arrivant tout à l'heure dans ma voiture.
En début d'après-midi, c'est tombé.
Voilà, c'est ça. On l'a appris tout à l'heure. Voilà, et puis pour ce que tu parles de féminicide, bien sûr, je vais annoncer le chiffre du mois. Alors, je n'ai pas de chiffre plus récent que le 16 août, donc il y a 15 jours, hein, voilà. Il y a deux semaines environ, donc on était à 104 féminicides depuis le 1er janvier 2025. Avant les vacances, je n'avais pas de chiffre pour juin, mais au 17 mai, on était à 59. Ce qui veut dire qu'il y en a eu 45 pendant les vacances en 3 mois. Alors on sait très bien que les vacances, voilà, c'est un moment où les violences, c'est une période durant laquelle les violences faites aux femmes augmentent crescendo, l'alcool, le fait de pas travailler, d'être tout le temps ensemble,
les
enfants, voilà, donc la tension monte et puis ces messieurs, voilà. Alors pour faire, si je calcule ce qu'on avait avant les vacances, ce qu'on a depuis le 1er janvier. Si on continue sur une base, bien sûr, ça ne veut rien dire ce que je dis là, mais disons de 15 par mois, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche, on est bien d'accord. Ça voudrait dire qu'on atteindrait 164 pour l'année 2025, donc à titre indicatif. En 2022, à la mi-décembre, on était à 124. Là, je viens de dire 165. Hein, 165. On était à 124 en 2022. En 2023, le 5 décembre, on était à 133. Donc évidemment, le 5 décembre, l'année n'est pas finie. Puis en janvier, il y a toujours malheureusement une régularisation qui fait augmenter le nombre.
L'alcool encore du 31. Donc... Non, pardon, prends le cliché.
Mais tout ça pour dire qu'il n'y a aucune amélioration. Il y a peut-être une aggravation. On en reparlera en janvier pour savoir ce qu'il y a eu sur l'année. Mais en tout cas, ça ne va pas dans le bon sens. Quoi. On ne voit rien se dessiner. C'est terrible.
J'ai une question par rapport à ça. Je peux la poser?
Oui, je t'en prie.
Alors, sachant que...
T'as pas levé la main?
Non, je... Tu fais des grands bras derrière. J'ai une question.
Ah,
on avait le même souci chez SOS Homophobie. Ça baisse pas, ça augmente tout le temps. Mais la question qu'on s'est posée, c'est peut-être que ça baisse, mais qu'on le voit pas d'une certaine façon. Ça veut dire que les gens, ils appellent plus. Il y a plus de... Ils sont plus répertoriés qu'avant.
Alors, ça, c'est sûr.
Alors, c'est la question que je me pose aussi.
Alors, c'est... Oui.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer.
Oui, absolument. C'est qu'avant, les féminicides, c'était noyé dans l'ensemble des meurtres.
Voilà.
Voilà. Sauf que ça fait quand même, par rapport à l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, on ne peut pas dire que c'est une question de déclaration, parce qu'on a des associations, justement, qui font tout ce qu'elles peuvent, et les chiffres que j'annonce viennent des associations en question, dont nous toutes, qui travaillent justement pour répertorier correctement tous ces féminicides qui sont des meurtres au sein d'autres meurtres, sont des assassinats, mais qui sont une catégorie particulière d'assassinats. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toujours un ajustement en janvier, parce qu'effectivement, un féminicide qui aurait lieu le 15 décembre, le temps qu'il y ait une enquête qui soit considérée comme féminicide et que les associations aient connaissance du féminicide en question, bah, ça sera peut-être comptabilisé
en janvier. Comme il y a plus de il y a 10 ans, on n'en parlait pas de ça.
Ah ben ça, on est bien d'accord.
Mais maintenant, comme on en parle, est-ce que les femmes le signalent plus ou font plus de... Il y a plus de signalements...
C'est pas les femmes qui signalent les féminicides.
Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce qu'il y a plus de visibilité et qu'il y a plus d'appels par rapport à ça, et qu'il y a plus... Non, je sais pas, je pose la question.
Au niveau du comptage des féminicides, non, parce que c'est un travail entre la police et les associations. C'est pas la police qui appelle les associations en disant « Ah, on a un nouveau féminicide ». C'est un travail, alors je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas dedans, donc je ne sais pas exactement.
C'est une question que je me suis posée, moi.
C'est vraiment les associations qui font un boulot incroyable et qui, effectivement, quand elles voient des décès, puis qui, avant d'annoncer que c'est un féminicide, effectivement, sont en contact avec la police pour savoir, pour être sûre qu'il s'agit bien d'un féminicide. C'est pas la police qui utilise le terme, à ma connaissance, féminicide.
Non, on est bien d'accord.
Ça, ce sont les associations qui, et pas que d'ailleurs, nous aussi, on n'est pas une... Enfin si, c'est une radio associative, mais enfin, on est une émission. Oui, on en parle davantage. Par contre, le mot féminicide, on le trouve maintenant dans la presse. Ça fait pas si longtemps que ça. Je vais pas donner de date parce que je me tromperais. Mais... Donc oui, mais par rapport au nombre de cas de féminicide déclaré, oui, par rapport à il y a 10 ans, évidemment.
C'est ça qui essaye de faire le ratio déclaré et pas déclaré.
Oui.
Je pense que nous, on a eu cette période-là chez SOS Homophobie en 2013. Ça avait explosé et puis après, on est redescendu. Et là, on voit que ça repart. Voilà, parce qu'on a plus de visibilité. Il y a toujours autant d'homophobie.
Oui.
Mais je dirais même qu'il y en a plus, sauf que ça, forcément, n'était pas forcément signalé avant.
Oui.
C'est ça que j'expliquais. Voilà. Alors,
pour les violences faites aux femmes, en dehors des féminicides, parce que là, ce sont des meurtres, donc ce n'est pas la victime qui peut parler après coup. Mais pour les violences, les autres violences, là, effectivement, il y a aussi une question de déclaratif, sans doute. Et puis, il y a toutes celles qui se taisent. Et effectivement, il y en a peut-être moins qui se taisent aujourd'hui
qu'il
y a 10 ans, 15 ans. Mais là, on est dans les violences en général. Voilà. Effectivement, c'est évident, quoi. C'est évident.
Voilà,
donc ça veut pas dire qu'il y en a plus, hein, ça veut dire comme tous les gens qui disent ah oui bah c'était mieux avant, on pouvait laisser nos enfants dans la rue, moi je jouais dehors etc, il y avait pas de problème, aujourd'hui les enfants faut pas les surveiller, faut veiller sur eux parce qu'avec tous ces risques d'agression qu'il y a, mais en fait il y avait aussi des agressions, mais on en parlait pas.
C'est ça en fait,
et maintenant on en parle,
c'est
pas la même chose. On est bien d'accord. Heureusement, ça c'est bien en fait de mettre ça en lumière, et bien sûr il faut dénoncer pour lutter contre quelque chose, bien sûr.
Merci pour cet éclairage, d'accord.
Je t'en prie.
Parce que ça se met souvent, ça se joint.
S'il y a quelqu'un qui en connaît davantage sur la façon dont, sont comptabilisés les féminicides, et d'ailleurs au passage je le dis que selon les sources, on n'a pas le même nombre. Alors ça ne joue pas à 100 près, bien sûr, on n'a pas toujours exactement le même nombre.
5-6 facilement, je pense.
Parce qu'il y en a qui vont compter comme féminicide uniquement des meurtres commis par le conjoint. Il y en a d'autres, ça va s'étendre aux conjoints, aux fils, aux cousins, aux oncles, enfin voilà, donc il y a des différences sur les critères pour qualifier un meurtre de féminicide.
Ça existe même.
Oui, voilà, donc il y a des différences.
C'est un jeu sur du détail là.
Alors moi, depuis le début de l'émission, ma source est toujours la même, comme ça je veux dire, s'il y a une variation, c'est pas parce que j'ai changé de source.
Okay.
C'est toujours la même, voilà. Okay. Et j'en profite, puisque je viens de dire depuis le début de l'émission, qu'aujourd'hui, nous rentrons dans la 7e année de l'émission Histoire de femmes, qui a été créée il y a 6 ans, et vous n'étiez pas là.
Mais toi,
et comme je le disais tout à l'heure, je ne me souviens pas de la première. Donc, si quelqu'un peut me la raconter, prenez contact avec moi. j'ai occulté le souvenir. Je sais pas. Alors, soit c'était juste tellement génial que j'ai occulté pour pas en parler, pour pas faire de peine à ceux qui font des émissions, ou voilà, et c'est moins bien. Je dis pas ça pour toi, Sandrine. Et soit c'était tellement nul, comme on disait tout à l'heure, que j'ai préféré oublier. Donc,
moi, la première, je l'ai oubliée, je crois.
Bon, tu vois, on est pareil. Donc, revenons, Adèle. Tu nous as dit, donc on a terminé sur la fermeture du restaurant.
Totalement.
Est-ce que ça a été le point final? Donc, tu nous as expliqué hein, que toutes les difficultés auxquelles tu as dû faire face t'ont donc poussé à la fermeture du restaurant. J'imagine que ça a été difficile psychologiquement.
Un petit peu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. C'est ton bébé, quoi. Donc, c'est ça, ça faisait un peu de peine. Mais j'ai souhaité rebondir et continuer toujours dans le même esprit. Donc de m'adapter toujours aux intolérances, choix alimentaires et à la gêne de chacun.
Alors c'est quoi cette adaptation ce...
C'est en fait, j'ai poussé à m'adapter à chacun, sur mesure. En fait, c'est que je fais un peu plus de traiteurs et d'événementiels.
Donc alors attends, pour nos auditeurs et nos auditrices, donc le restaurant n'existe plus.
Le restaurant n'existe plus.
Mais ton activité continue, voilà. Sous une autre forme.
C'est ça, j'ai relancé une autre entreprise.
D'accord.
D'événementiels traiteurs, avec une boutique en ligne également, où en fait on peut retrouver tous les produits. Donc pour ce qui est de e-commerce, donc c'est sur mon site web, on va avoir une série de produits comme en fait une carte de restaurant. Mm-hmm. J'ai repris beaucoup de produits qui fonctionnaient au bistrot VG, qu'en fait aujourd'hui on peut adapter en fonction de son régime alimentaire spécifique. Donc c'est-à-dire soit végétarien, soit sans gluten, soit végétalien et sans gluten.
Donc ça va demander une souplesse importante parce que tu ne sais pas ce qu'il va y avoir comme commande le lendemain.
Exactement.
En fait.
Donc c'est stressant, ça. C'est assez... En fait, en un plat, je peux en avoir 3 ou 4. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de produits, beaucoup de production, beaucoup de matière. Et c'est pour ça que le site, pour le moment, tout ce qui est mes produits en ligne, il n'y a pas énormément de produits. Pour le moment, il n'y a que les basiques. Et au fur et à mesure, j'évoluerai sur
la proposition. Parce que tu ne peux pas stocker non plus tout ça.
J'ai aucun stockage.
Tu ne peux pas préparer tout à l'avance, évidemment. Puis comme tu ne sais pas ce qu'on va te demander, tu ne sais pas si tu vas avoir besoin de tomates ou pas.
Donc c'est pour ça que j'ai fait en fait un système de... J'ai une commande par mois, donc une production. Et en fait, je propose plusieurs façons de conserver les plats. Donc, on peut soit les stocker au congélateur, au frigo, comme ce qui permet de conserver sur quelques jours, sous quelques jours ou semaines, le temps de la prochaine production, certains des produits.
Alors, quand tu parles de traiteur événementiel, ça veut dire que ce n'est pas pour soi, chez soi, à deux. Ce n'est pas une commande comme on peut faire les commandes Uber.
Ce n'est pas une commande à emporter. Non, comme on peut le connaître, il y a soit la boutique en ligne, donc, ouais. Où vous commandez un produit que vous pouvez conserver et le manger comme ça quand vous le souhaitez, même au bureau ou autre. Ou soit il y a le traiteur. Et à partir de ce moment-là, c'est en général pour un événement quand même, pour un regroupement, pour un gâteau. Je fais aussi de la pâtisserie pour les gâteaux d'anniversaire. Je vais faire des commandes plus pour les professionnels, pour les buffets d'anniversaire également, les réunions,
mariage,
les gâteaux repas, des mariages.
Mariage, toi ?
J'ai pas fait encore, car du coup, j'ai relancé Vegan Free donc, en mai, ce mois de mai-là,
d'accord.
2025. Donc, j'ai bien travaillé en juin. J'avais une moyenne de 2-3 commandes traiteurs par semaine. Et après, pour la période de juillet-août, ça a été un peu plus calme, comme tout a été réservé avant. Pour tout ce qui est des mariages, c'est quand même une petite année avant, minimum, pour tout ce qui est des gros événements. Donc, j'attends de voir peut-être l'année prochaine. Si des gros événements comme ça se présentent, ça pourrait être sympa.
Au salon du mariage.
Exactement.
Je proposer
mes services.
Ah oui.
J'ai proposé mes services un petit peu partout et aujourd'hui, donc, je suis en phase de développement. Et,
Tu peux peut-être nous donner l'adresse de ton site internet, le nom de ton affaire, de ton entreprise.
Alors, c'est simplement vegfree, V-E-G-F-R-E-E.
En un seul mot ?
En un seul mot.
OK.
.fr.
OK.
Tout simplement.
D'accord.
Donc, le commerce s'appelle Vegan Free, donc végétalien, végétarien et sans gluten, sans lactose pour le free.
Ok, d'accord. Donc ça c'est important, j'espère que tous nos auditeurs et toutes nos auditrices ont bien noté. En plus c'est facile.
C'est Moi je suis
c'est
le barbeau.
Est-ce
que tu as déjà essayé?
Non, mais je suis une intolérance à tout ce qui est épices. Totalement.
Et moi, je m'adapte à chacun.
Donc, alors, jusqu'où les épices, le poivre, c'est une épice?
Ça va.
Tu sais que j'en ai eu beaucoup au bistrot VG qui venaient avec des spécialités très particulières, du style pas de gras, pas de sucre, mais 0 g de sucre.
Ouais,
donc, faire du sur-mesure pour les clients. Et c'est quelque chose, du coup, qui m'a permis de créer Vegan Free, qui s'adapte beaucoup plus. Dernièrement, en terminant le bistrot VG, en recommençant ma seconde activité, j'ai eu une commande traiteur qui était sans lactose, sans gluten, sans soja. Et il faut savoir que du coup, les alternatives véganes, donc sans lactose, sont souvent avec du soja, sans ail et sans fruits et légumes crus.
Wow.
Mais tu l'as fait.
Et je l'ai fait.
Et ils étaient contents ?
Ils étaient très contents.
Parce qu'il faut que ça ait du goût, évidemment.
Totalement. C'est en fait tout un retravail. Et moi, ce que j'aime, c'est en fait retravailler les plats, les recettes dites traditionnelles et les réadapter avec ces régimes alimentaires et plein de produits qu'on a aujourd'hui qui se développent tout le jour. Et je fais beaucoup de fait maison avec des produits issus de l'agriculture biologique et locale. Et surtout, j'essaie de me réadapter à des plats dits traditionnels.
Alors, je voulais juste souligner pour nos auditrices et nos auditeurs, vous entendez Adèle, mais vous ne la voyez pas. Et avec ses mains, elle avait un geste quand elle parlait de
pétrir la pâte.
J'ai pensé à l'artiste, à la sculpture, le fait de travailler le bois ou la poterie, enfin ce genre de choses. Et en fait, j'allais dire, mais voilà, la cuisine, est-ce que c'est pas un art, quoi?
Totalement, surtout de le retravailler à ce point. C'est ça. C'est-à-dire que très rapidement, au Bistrot VG, j'ai sorti une recette de ravioles forestières sans gluten et sans lactose. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Et aujourd'hui, même sur Internet, des belles pâtes, des belles ravioles véganes et sans gluten, c'est quasiment impossible d'en trouver.
Alors je voudrais que j'essaie, parce que je ne connais pas du tout cette cuisine-là.
Il faudra tester.
Après, j'ai peur d'avoir manque de goût.
Et ça, il faut
j'étais élevée au beurre, je le dis, la bonne bretonne.
Dans les versions végétariennes, il y a des versions avec du beurre. Et puis il y a dans le végétal, dans le vegan, il y a du beurre.
Ouais, non mais.
Mais c'est juste du beurre végétal. Et en fait, des fois, on a beaucoup d'a priori. Et c'est ça que sur lequel je
pense que j'en ai. Honnêtement, je serais surprise.
C'est marrant ça s'entend, Sandrine.
Je sais pas pourquoi.
Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est casser les codes et les clichés autour de toutes ces alimentations. Et c'est pour ça que je les défends aujourd'hui et que je suis très présente sur les réseaux sociaux et que je mets beaucoup d'images, de photos. Et moi, ça m'intéresse
pas de faire une assiette de légumes. C'est visuel qui donne, c'est ça. Le premier truc.
Moi, mon but, c'est pas de faire des assiettes de légumes, c'est de vraiment retravailler les plats. Et certains n'ont pas vu la différence quand même.
Alors moi, je suis venue manger chez toi, enfin dans ton restaurant, et j'ai pris des ravioles.
Les ravioles.
Ça, je m'en souviens.
C'est
la version, bien.
Il me semble, sans gluten et vegan en plus.
Alors, sans gluten, je pourrais pas dire, mais vegan, oui. À l'époque, je crois pas que tu faisais du végétarien.
Non,
voilà, tu faisais que vegan à l'époque. Et enfin, franchement, j'ai été totalement bluffée parce que, alors, je suis pas une viandarde comme toi, Sandrine, mais j'avais jamais mangé vegan de ma vie. Et c'était excellent. Ces ravioles étaient vraiment excellentes et il n'y a pas de différence avec. Enfin, c'était très bon, pas de différence avec des ravioles qui auraient été très bonnes ailleurs et qui n'auraient pas été véganes.
Ces mêmes ravioles comportaient du cream cheese avec une farce aux champignons grillés, une crème parmesan dans l'assiette. Ouais, tout était végane.
Oui, ça passe.
Oui, mais c'est du crème faux parmesan. C'est une crème végétale.
C'est pas du fromage.
C'est un cream cheese. Mais ça, tu sens pas vraiment.
Mais je pense que tu sens pas. Tu as travaillé tes produits. Je pense. J'ai
pas
de doute.
C'est beaucoup de travail.
Moi, qui vais beaucoup au resto, je tente des nouvelles choses. Des fois, je suis là.
Ah ben voilà.
je tente des nouvelles choses. J'estime que quand tu vas au restaurant,
c'est pour
tu vas pas manger un burger frite.
Ah ben oui.
Alors, tu vas soit manger une bonne viande ou un plat nouveau. Moi, j'ai toujours.
Bien sûr.
Ou un bon poisson.
Ou un bon poisson.
Bon plat végane.
Je ne vais pas forcément manger à la maison.
Et puis moi, je peux vous dire un truc. Moi, je vais assez souvent au restaurant. Je teste des nouveaux restaurants. Je me suis fait avoir cet été. Hein. Enfin, c'est de ma faute. Je n'avais pas allé sur la côte. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ouais. Mais bon, j'ai testé. Et, quand vous voyez une liste, par contre, sur la carte extérieure, où la carte a fait 15 pages, tu te dis tout de suite que c'est du congé, c'est pas du fait maison. Même, c'est en fonction des bourses, on est bien d'accord. Mais il y a des petits restaurants. Il y a 3-4, c'est le plat du jour, le poisson
c'est
du jour.
Meilleur.
Déjà, ça te donne une indication assez
rapide.
C'est pas
de la conserve,
voilà. C'est ça, les produits sont frais, c'est tout cuisiné, c'est travaillé.
Et bon, même si les restaurants ont beaucoup augmenté, on l'a tous vu cet été, je suis la première à dire, je suis, oula, voilà, j'ai fait, waouh, ça a pris une petite augmentation, là, ça fait mal. Eh bien, tu peux manger quand même correctement 20-25 euros. Voilà.
Faut choisir le bon restaurant, qui n'a pas une carte XXL.
Puis moi, maintenant, je mets des notes sur les restaurants, je me gêne plus.
Bah, t'as bien raison. Hein.
Depuis qu'on me l'a fait, je le fais.
Ah oui, mais moi, je l'ai fait et je me suis pas gênée pour le faire parce que voilà.
Bah, c'est bien quand on met les notes de façon honnête, bien sûr. Oui. Alors, pour revenir à Adèle et à toi, Sandrine, donc ton prochain défi, c'est de goûter la cuisine d'Adèle.
Eh ben, je pense
et
que...
Je le redis, hein, le restaurant physiquement n'existe plus.
Oui, mais
pour autant,
je pense que ma femme
l'affaire d'Adèle, écoutez, elle existe.
Elle va noter l'adresse.
Émilie, note l'adresse si tu nous écoutes. Donc là, non, voilà, il faut aller essayer.
Je ne ferai pas pour mon mariage. Hein. J'ai prévu un gros cochon, par contre.
Je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne, mais j'ai mangé la cuisine d'Adèle, et je vous dis que c'est vraiment très très bon. J'ai été totalement bluffée, je n'avais jamais mangé vegan avant. Donc, non, c'est pas pour être gentille. c'est pour dire la vérité. Et donc là, l'activité en ligne, c'est depuis le mois de mai, c'est ce que tu disais, avec une, plus ou moins une pause, enfin un ralentissement cet été. Voilà, donc là, ça reprend, c'est la rentrée. Donc, les réseaux sociaux, enfin tous les canaux de communication.
Dans les starting blocks.
Voilà, donc ça c'est super. Tu travailles avec, tu as des partenaires
Effectivement, pour ma production, car aujourd'hui du coup j'ai plus de locaux. Je travaille avec un restaurant partenaire en centre-ville qui me confie ses cuisines pendant la nuit.
Tu as le droit de le mentionner si tu le souhaites.
Le restaurant au caractère.
D'accord,
en centre-ville.
Okay.
Et je trouve le partenariat sympa parce qu'ils sont totalement contradictoires avec mon projet. C'est-à-dire qu'eux prônent en fait la viande et la charcuterie. des planches apéritives. Et en fait, on est totalement.
Vous êtes complémentaires en fait, hein,
mais
finalement.
Au fond, en fait, sur le fond de nos valeurs et de notre activité commerçante, on a totalement les mêmes valeurs, on s'entend très très bien. Et c'est un réel plaisir de faire un partenariat avec eux.
Ah mais oui, c'est super.
Car
ça.
Ils me confient leur cuisine, c'est quand même aussi une bien partie sûr. Interne de leur restaurant, de leur concept. Oui. Ils me font confiance et moi en fait, je fais mes productions pendant la nuit, qui dorment tranquillement.
C'est génial ça.
J'ai une question, t'es végétarienne?
Oui.
D'accord.
Eh bien, non, nous avons encore un petit peu de temps.
Je peux pas manger chez eux.
Est-ce que tu veux qu'on lance une musique?
Eh bien, écoute,
avant qu'on passe
vas-y,
j'ai le temps.
Choisis-nous un petit
alors,
morceau.
Alors, moi, on va partir dans les îles. Et on va aller en Martinique et Guadeloupe.
Là où il y a plein d'épices.
La transition est... D'ailleurs, c'est sympa, c'est une artiste lesbienne que je n'ai pas moi qui a découvert, c'est Émilie qui a découvert ça. C'est ma binôme à l'émission Gay Friendly. Elle s'appelle Lindsay. Je vais me planter encore. Lindsay Naïs Jean. Voilà, et la chanson, c'est Entre nous. Alors là, la chanson est assez en français, donc c'est un choix qu'on a fait. Parce que sinon, elle chante Guadeloupe, Martinique. Mais vous allez voir, c'est très sympa et c'est. Enfin,
okay.
Ça enchante, ça va vous mettre dans l'ambiance.
On va découvrir.
Allez, c'est parti.
Toutes ces pensées.
Voilà, et bien maintenant il est 20h, nous sommes toujours en direct pour l'émission Histoire de Femmes sur Graffiti, le premier samedi, n'importe quoi, le premier mercredi de chaque mois, et il est l'heure de la seconde chronique d'Annie. Alors on t'écoute.
Allez, c'est parti. Donc pour cette deuxième chronique traitant du sexisme, j'ai pas fait dans l'originalité, j'ai opté pour la même formule que la première, à savoir la déprime. La rétrospective. La rétrospective de l'été. Voilà, c'est
tu
ça.
Tu arrives mieux là, hein ?
Ouais, c'est la répétition, quoi. Alors, mais c'est vrai que... Bon, vous faites pas trop d'illusions, hein, de ce côté-là non plus, c'est pas la grosse bamboche, hein. Et là aussi, je dois annoncer un trigger warning, puisque décidément, la vie des femmes semble systématiquement contaminée par la violence. Il sera question de féminicide. Si vous écoutez l'émission régulièrement, vous devez être familière et de son générique. Le début de la chanson SLT de Suzanne, décrivant une situation malheureusement bien trop récurrente de harcèlement de rue. Ce harcèlement, tristement banal, est parfois fatal. Dans notre société hyper connectée, sur les ondes, il s'est infiltré, les commentaires, il a colonisé, et les fils d'actualité, il a inévitablement gangréné. Le 2 juin dernier, c'est à Sana Youssaf qu'il a coûté la vie. Alors qu'elle fêtait ses 17 ans, cette jeune influenceuse, célèbre au Pakistan, a été abattue par balle chez elle à Islamabad. Juste parce qu'elle n'avait pas répondu au message de son assassin. Juste parce qu'elle n'avait pas cédé. Juste pour ce qu'elle n'avait pas fait. Juste parce qu'elle vivait librement, visiblement, heureuse, indépendante, mais qu'elle ne répondait pas aux assauts d'un mal toxique. Alors, ce mal toxique l'a éliminée. Si facilement, aidée par une culture patriarcale omniprésente, oppressante, étouffante et destructrice. Cette même culture qui exacerbe les frustrations orchestrées des mâles toxiques, leur fournissant légitimité et droit à la domination, alimentant par là même les sources intarissables de violence à l'encontre des femmes, en excitant insidieusement les appétits insatiables des masculinistes. Cette même culture qui a causé la mort de Evdila, tuée à coups de hache par son ex-conjoint, le 20 juin à Gagny, en Seine-Saint-Denis. Madja, sa cousine, y a survécu, mais a, elle aussi, été victime de cette inacceptable violence tolérée et cultivée. Structurée et diffusée stratégiquement, l'idéologie incel dévore les algorithmes, épaulée fraternellement par la culture du viol et le patriarcat. Les cerveaux lobotomisés qu'elle atteint fomentent alors les pires scénarios d'attentats, visant spécifiquement les femmes, parce qu'elles sont des femmes, juste parce qu'elles sont des femmes, comme celui heureusement déjoué du 2 juillet dernier. En réponse à cette violence, comme de bien frêles tentatives de guérison, des marches blanches sont organisées. Régulièrement, trop régulièrement, beaucoup trop régulièrement. On ne devrait plus avoir à les organiser depuis longtemps, mais elles demeurent pourtant indispensables. Elles serpentent paisiblement, invitant à l'union pacifique, au recueillement introspectif, au rassemblement constructif. En ce mois de septembre, en Vendée, une de ces marches proposera de rendre famage à Samira Atif, tuée à Saint-Jean-de-Mont le 20 décembre dernier par son ex-mari alors qu'elle partait travailler. La marche, organisée par Solidarité Femmes 85, s'élancera à 16h de l'école de la plage rue des Moulins à Saint-Jean-de-Mont le 13 septembre. Bien qu'on ne cesse d'entendre des « not all men » comme d'insupportables grincements de portes surannées, la situation se résume pourtant à la synthèse de Margaret Atwood. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. On peut alors se sentir bien démuni face à tant d'hostilités impunies. Cependant, la mémoire de celles qui sont parties et la volonté de se soutenir et de se protéger entre sœurs déterminées doivent nous interdire d'abandonner. Qu'ils le veuillent ou non, nous existons, nous vivons, nous produisons, nous cultivons, nous éduquons, nous célébrons, nous encourageons, nous rayonnons. Et ce, au nez et à la barbe de ces cons, les mascus. Et sans relâche, nous leur prouvons. Même si ça reste encore trop timide jusqu'à présent, nous prenons notre place dans le monde du sport, encore particulièrement sexiste à bien des égards. Au mois de juillet, on a ainsi pu profiter des matchs de l'Euro féminin de football à la télé. Puis on a enchaîné avec le Tour de France Femmes, remporté par Pauline Ferrand-Prévot. 36 ans se sont écoulés avant qu'une Française prenne la suite de Jeannie Longo. Mais s'imposer dans le sport ne suffit pas. L'avenir d'une culture se dessine souvent par le biais de l'éducation. Et de ce côté, on perçoit une lueur d'espoir qui porte presque le nom d'une super-héroïne, l'Evars. Il s'agit de l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, dont l'obligation de mise en œuvre du programme récemment défini entre en vigueur lors de cette rentrée 2025. Il ne reste qu'à souhaiter que les moyens humains et financiers mis en place soient suffisants et à la hauteur de l'enjeu.
Merci Annie. Ouais, c'est toujours, on a beau connaître le sujet, on a beau en parler, pas seulement une fois par mois d'ailleurs, évidemment. C'est toujours aussi violent d'entendre ce récit d'une partie des violences qui ont eu lieu, évidemment.
C'est juste de quelques exemples, malheureusement.
Mais c'est... Enfin, moi, ça me fait toujours un choc. Enfin, abasourdi
par la violence. Les idées de violence qui leur viennent à l'esprit.
À la machette, c'est ça ?
À la hache.
À la hache.
C'est plus long.
C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces mecs, quoi ? Oui, on avait compris. Non mais qu'est-ce que on vit dans un monde de... Je dis ça, c'est pas un scoop, hein, mais pour autant, à chaque fois, ça me perturbe de la même façon, quoi. Un petit peu de musique, Sandrine, pour...
Avant
de finir avec Adèle, oui. Enfin, d'en finir.
Caroline Grandjean, aujourd'hui, moi, je vais y rendre...
Absolument, tu as raison.
Non, mais je voulais en parler parce que c'est quand même important, et puis c'est quand même aussi mon émission. C'est gentil de me laisser la parole parce que...
Je t'en prie,
on dit que normal. L'homophobie, tu pues. Enfin, non, c'est pas vrai, bien ça sûr. Tue. Enfin, moi j'ai suivi le truc, j'ai eu des détails encore ce matin. Le combat continue. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a des associations qui sont là pour vous aider. Et cette personne, je pense qu'elle n'a pas été bien entourée parce que porter 5 fois plainte, l'enquête arrêtée.
Non,
mais il y aura une enquête administrative, je pense,
d'une manière ou d'une autre. Forcément.
Bien sûr, il faut qu'il y ait un mort pour qu'il y ait une enquête administrative.
Ah ben, oui.
La fonction publique, pardon. Non, mais voilà, c'est cette directrice d'école qui a subi de l'homophobie dans son école jusqu'au bout. Non, mais là, je comprends pas. Elle est en arrêt depuis 1 an et demi, je crois. Oui. Moi, ça m'a énormément choquée. Et quand j'entends dire, oui, il n'y a plus d'homophobie, faut arrêter de vous plaindre. Non. On le sait qu'il y en a. Et souvent, c'est comme ça, des personnes isolées qui en souffrent. Alors je dis, il y a des associations qu'on est là pour écouter, pour essayer de vous aider. Et il faut en parler, il ne faut pas rester seul. Voilà mon coup de gueule.
Mais tu as raison, effectivement. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, cette femme qui était enseignante dans une école primaire dans le Jura, je crois.
Cantal.
Dans le Cantal, oui, pas dans le Jura. Dans le Cantal, s'est suicidée avant-hier, lundi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Je veux dire, il y a un message important.
Bah là, oui.
Elle avait déjà tenté de se suicider auparavant. Alors, il y a un an peut-être, je veux pas dire de bêtises, je connais pas la date. Donc en fait, cette femme vivait, donc Caroline Grandjean, je crois,
ouais, c'est ça.
Qui donc vivait avec une autre femme, était dans un village où a priori ça ne posait aucun problème. 40, elle avait jamais remarqué ans, quoi que ce soit. 42 ans, voilà, 42 ans, elle avait jamais remarqué quoi que ce soit dans le regard des gens, jusqu'à ce qu'un jour apparaisse un tag sur le mur de l'école. Alors oui, je sais pas si c'était le premier, il y en a eu plusieurs en fait, donc du même acabit, hein, Sal Gouine, etc. La première, je ne sais plus exactement comment elle a réagi, et puis après, elle en a parlé aux parents d'élèves, elle en a parlé à sa hiérarchie, elle en a parlé à la mairie de la ville.
Elle a porté 5 fois plainte.
Il y a eu aussi des menaces de mort, et tout ça dans du un courrier. Espèce de silence assourdissant, donc un corbeau qui s'attaquait à elle, dans un silence assourdissant. Elle a raconté son histoire à un auteur de bande dessinée, qui l'a raconté donc dans une bande dessinée. Ça a fait scandale. La mairie, enfin localement, je veux dire, la mairie n'était pas contente parce qu'elle mettait l'affaire en lumière. Enfin bref, il y a eu des rebondissements comme ça. Au bout du compte, cette enseignante, elle était seule. Alors, quand je dis seule, c'était pas seule à 100%. Évidemment, elle avait sa famille, elle avait sa conjointe, elle avait forcément quelques collègues ailleurs en France qui la soutenaient. Mais elle était fondamentalement seule.
Je pense qu'elle aimait beaucoup son métier.
Elle adorait son métier. Elle a refusé de quitter l'école dans laquelle elle était pour que, pour que les histoires, comme il disait, se calment. Parce qu'elle, elle a dit « je ne fuis pas face à l'homophobie ». Je reste, je ne vais pas céder, c'est moi la victime, je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Elle avait cette force, ce courage incroyable jusqu'à lundi. Et c'est extrêmement choquant. Toute la France, tous ceux qui sont au courant, et c'est difficile de ne pas être au courant, c'est évidemment partout et heureusement sur les réseaux sociaux, dans les médias, la communauté éducative bien sûr, mais pas que. On est en deuil, quoi. C'est vraiment terrible. Et encore une fois,
elle l'a préparé parce que pour laisser un message en plus comme ça,
elle a téléphoné.
Oui, elle a dit, il y en a qui sont, je sais plus les mots exacts qu'elle a prononcés.
Non, c'est ce qu'elle a écrit, à ses collègues en disant, la rentrée sera plus difficile pour vous que pour moi.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ce qu'elle a dit un peu avant, qu'elle a écrit, je crois. Et en fait, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en étais.
Cette enseignante ou cette directrice d'école, Caroline.
C'est vraiment terrible. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'encore une fois, ce qui s'est passé, sa mort, c'est une femme qui... C'est le fruit d'une maltraitance institutionnelle, d'un harcèlement. Et quand je dis harcèlement, je ne parle pas que du corbeau. Je parle du personnel de l'éducation nationale et de la ville, des élus, etc., je ne connais pas l'histoire en détail, mais de ce que j'ai pu en lire partout, et notamment le témoignage de l'auteur de bande dessinée, qui se sont acharnés sur elle ou qui n'ont rien fait, et c'est une maltraitance aussi. Donc c'est une administration qui broie, des gens qui broient, des individus, et ça va au-delà du corbeau. Et j'espère qu'on va pouvoir identifier cette saloperie, quoi. Voilà.
Ça, l'enquête est arrêtée.
Comment ça, elle est arrêtée? Elle est commencée, tu veux dire? Il y a une enquête administrative qui commence.
Il y a une enquête administrative, mais l'enquête pour les tags et tout, c'est arrêtée.
Oui, mais ça va ressortir.
Classé sans suite.
Oui, mais ça va ressortir.
J'espère.
Oui, ça a été classé sans suite il y a déjà un moment.
Mars.
Et là, le gouvernement vient de demander qu'il y ait une enquête donc administrative pour l'instant. Ça va relancer la machine. Je crois qu'on peut compter aussi sur un certain nombre de gens. Il y a aussi des syndicats enseignants qui s'en mêlent. Donc ça va bouger.
Ça fait un appui en plus.
Oui, mais c'est dommage que ça arrive après sa mort. Voilà, c'est ça qui est triste. Eh bien, peut-être que nous allons conclure avec Adèle avant de terminer, enfin avant d'avancer dans l'émission. Entre-temps, nous avons reçu dans le studio Tiffaine. Bonsoir Tiffaine.
Bonsoir.
Voilà, de l'association Nous Toutes 85 qui va tout à l'heure nous lire un extrait ou un ou des textes ou des extraits de lecture féministe comme on le fait tous les mois à l'antenne. Mais tout d'abord, revenons à Adèle. Comment, si tu dois faire un bilan de cette aventure qui a donc duré plusieurs années entre le moment où ça a incubé et aujourd'hui, c'est quoi ton bilan? Est-ce que il est positif, négatif? Est-ce qu'il est nuancé? Et qu'est-ce que tu en ressors de plus positif ou je sais pas?
Il est assez nuancé,
ouais.
Parce qu'on a été dans une période aussi qui a pas été facile pour personne en tant que commerçant au niveau de l'économie.
Donc tu parles du Covid?
Non. Un peu après.
Ah non, tu parles des difficultés économiques que rencontrent... Oui, parce que le Covid, c'est un peu trop tôt. Tu parles des difficultés économiques
c'est
que rencontrent...
depuis quelques années, les restaurateurs.
Oui.
Donc, j'ai pas forcément trop de visibilité là-dessus.
Oui.
Cependant, je dirais quand même qu'il y a une nécessité aujourd'hui de tous ces concepts. Parce que moi, aujourd'hui, j'ouvre, mais on est beaucoup aussi à se développer là-dedans. Toutes ces alimentations aussi se développent via nos alimentations dans l'industriel, qui nous font développer en fait des intolérances, des allergènes. Donc ça, beaucoup ne le comprennent pas aussi. Beaucoup pensent que c'est quelque chose de tendance ou qui surfe sur l'internet, les réseaux sociaux. Alors que non, c'est en fait dans notre alimentation depuis quelques années, il y a des produits qui font qu'aujourd'hui on tolère beaucoup moins de choses et que ça ne cesse de se développer et que aussi la médecine et les tests, les examens ne cessent de se développer et permettent d'analyser aussi ces intolérances, ces allergènes et que aujourd'hui, on n'est pas des parias dans la restauration. On doit avoir le droit de se restaurer partout et on doit pouvoir choisir, avoir le choix.
Est-ce que tu crois qu'on pourrait dire que finalement tu étais peut-être un peu en avance, un peu précurseur en Vendée en tout cas, parce qu'effectivement dans les grandes villes, tu vois, à Paris, ça existe depuis très longtemps.
Après mon ouverture alimentation en centre-ville, pas mal de personnes ont inséré des plats végétaliens, des plats sans gluten, d'autres qui ont vachement plus élargi quand même
leur choix. T'as semé des graines.
Peut-être, oui. Je n'aurais pas la prétention de le dire, mais d'autres le faisaient déjà avant, mais étaient un peu moins reconnus.
Oui, c'était donc très confidentiel.
C'est ça, le fait de mettre vraiment un nom sur un restaurant et d'avoir fait pas mal de médias, de journaux, de choses comme ça, a permis quand même l'évolution de tous ces régimes alimentaires, de faire découvrir à plusieurs personnes en tout cas.
Et à l'avenir, un nouveau projet ou pas encore, ou il y a quelque chose qui est en train d'incuber là-dedans dans ta tête ou pas?
Peut-être un autre restaurant, pas en Vendée pour sûr.
Ah, mais ça serait où? Tu as une idée?
Je verrai.
Et pourquoi pas en Vendée? Tu veux nous spoiler là en fait? On n'ira pas droit.
C'est une région encore peu développée sur tout ça et qui a encore vachement de mal. Pourquoi pas en Vendée, mais peut-être sur un différent format, car conserver le traiteur comme je l'ai actuellement permet aussi, et la boutique en ligne permet à certains de pouvoir se restaurer quand même et d'avoir beaucoup de choix, mais de faire un marché entier sur la Vendée peut être un peu plus délicat.
Alors on rappelle le nom de ton site.
Aujourd'hui c'est Vegan Free, donc vegfree.fr, et on y retrouve du coup une boutique en ligne, un service traiteur et pas mal de petites choses à côté.
Bien, merci d'être venue, Adèle. Tu as un parcours inspirant et d'autant plus que tu es très jeune. Je rappelle que tu as 23 ans et bravo. Et on compte sur toi pour nous parler de tes prochains projets, de tes projets. Et on te souhaite bonne chance.
Merci beaucoup.
Pour tes projets. Et on va...
Tu veux passer une
terminer. Ah ben oui, s'il te plaît.
Bon, alors, il n'y a pas de souci. Je vais passer Tegan and Sarah, ça vous dit quelque chose?
Non.
Non. Bon,
allez, on y va, on va découvrir.
C'est parti, ça va déménager. C'est parti. All I wanna get is a little bit closer. All I wanna know is, can you come a little closer? Here comes the breath before we get a little bit closer.
Let's Can you come a little closer?
Eh bien, merci Sandrine pour ce morceau que personnellement je découvrais, toi aussi Annie, Adèle aussi.
Également.
Alors donc comme je l'ai dit juste avant, est entrée dans le studio en catimini, Tiphaine donc du collectif Nous Toutes 85 et qui va nous lire un ou des extraits d'un ouvrage qu'elle a choisi.
C'est ça, ce sera La cause des femmes de Gisèle Halimi. Dis maman, le féminisme c'est quoi aujourd'hui ? Le féminisme aurait d'abord aujourd'hui comme priorité le changement des priorités et devrait convaincre qu'un autre partage des rôles, un autre environnement et surtout une autre démocratie sont l'espérance du futur. Est-ce à dire que les acquis peuvent être laissés à l'usage confiant de leurs bénéficiaires, que les batailles gagnées scelleraient comme par osmose avec les mœurs nouvelles les pages de l'action des féministes d'hier ? Je ne le crois pas. Je crois au contraire que les acquis ne l'étant jamais définitivement, surtout ceux des femmes, les batailles continuent, s'entremêlent et se prolongent l'une et l'autre. Que le devoir de vigilance des femmes pour le passé fait la courte échelle aux espaces nouveaux à conquérir demain. À quoi servent les féministes, demandez-vous ? À dire par exemple que les droits conquis hier ne céderont pas au terrorisme d'aujourd'hui ? Qu'il y va de la liberté de tout citoyen et citoyenne de choisir sans contraindre l'autre. Qu'il y va du sens même de la démocratie. Que tout combat féministe, même apparemment terminé, contribue au respect de l'autre, à la laïcité, bref, à la marche générale du progrès. Récapitulons. Si les acquis des femmes portent, comme la marque de la précarité, l'étiquette attention, menace permanente, alors le féminisme se confond aujourd'hui avec une fonction de vigilance. Mais le réduire à ce rôle serait oublier sa raison d'être pour demain. J'écrivais en 1973, en conclusion à ce livre, que les femmes avaient la responsabilité d'impulser une nouvelle dynamique de changement. Comment ? En assemblant patiemment le puzzle de nos acquis, apparemment morcelés, pour découvrir le fil conducteur de ces combats. Retrouver nos racines. Racines qui, en émergeant, bousculent celles du vieux monde, recouvrent petit à petit les structures des rapports humains d'aujourd'hui, produits encore par la culture patriarcale. Le féminisme permet une conquête des femmes sur elles-mêmes, sur l'incertitude initiale de leur propre identité. Enfermée dans son rôle féminin, la femme ne mesure pas à quel point son oppresseur est lui-même prisonnier de son rôle viril. En se libérant, elle aide à la libération de l'homme. En participant à égalité à l'histoire, elle la fait autre. Éradication du rapport de domination d'un sexe par l'autre et déplacement réciproque des rôles. Cela ressemble fort à une révolution, vous ne trouvez pas ? Une révolution tranquille. Et qui va son chemin, malgré les dissertations médiatiques sur l'épuisement de la superwoman, la solitude de fond de la féministe, la déroute de nos mâles devant leur égal et autres faribles du même genre. Pourquoi le féminisme aujourd'hui ? Justement pour réussir là où l'égalité économique a échoué, là où la culture patriarcale résiste. Le féminisme vient seulement de commencer sa longue marche. Dans 20 ans, dans 100 ans, il aura changé le monde.
Merci Tiphaine. Que peut-on ajouter ? À ce que nous venons d'entendre, les mots de Gisèle Halimi, enfin voilà, c'est juste. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Pour moi, c'est parfait et je ne pourrais évidemment pas dire mieux. Parce que c'est, tu peux peut-être nous dire pourquoi tu as choisi ce texte, même si ça paraît peut-être une évidence, je ne sais pas.
Bah, c'est une évidence et à côté de ça, quand on voit le contexte géopolitique mondial, les droits des femmes qui reculent dans certains pays. Je pense que rappeler le fondamental, ça fait du bien parfois.
Tu as tout à fait raison. Et Gisèle Halimi, pour rappeler les fondamentaux, il n'y a rien de tel. Quoi. Évidemment, merci beaucoup Tiphaine. Donc, je le rappelle, du collectif Nous Toutes 85. Est-ce que Adèle, tu as un mot de la fin ou pas ? Non, bah, c'est vrai qu'on a déjà... Voilà, eh bien, Sandrine,
oui,
est-ce que tu es contente d'avoir été des nôtres ce soir?
Moi, je suis toujours contente d'être à Graffiti, d'être à pouvoir aider, d'être avec vous, parce que ça me fait plaisir. Moi, je suis en train de voir qu'il y a longtemps que j'ai vu autant de femmes dans les studios.
en tout cas, merci d'avoir été des nôtres
voilà,
ce soir.
Je suis en train de chercher, je crois que je vais mettre le générique habituel de l'histoire de femmes, parce que je ne m'en sors pas. Je ne sais pas quelle mettre, en fait.
Eh bien, écoute, tu mets, vas-y, dis-nous ça, un morceau, et puis tu le mets, ça n'a pas d'importance, on s'en fiche.
Générique de fin quand même.
Ben, tu mets le générique si tu veux.
Voilà,
mais tu sais, nous on n'est pas difficile. Hein,
je sais bien.
Il n'y a pas de souci.
J'aime comprendre un petit peu son truc, mais
d'accord.
À la fin.
Et moi j'en profite pour refaire un petit coucou à Alex et lui dire de,
Alex,
revenir vite, de se retaper.
Ouais, j'espère que tu nous. J'espère que tu vas bien mieux si tu nous écoutes. Et puis si tu nous écoutes pas, de toute façon, on est quand même en contact avec toi.
J'espère que Napoléon va bien aussi.
Non. Il y en a qui. Bah oui, parce que je
comprends pas Napoléon.
Je sais pas pourquoi elle parle de Napoléon, je comprends pas du tout.
Non, c'est Apollon, t'as raison. Mais
oui.
C'est moi qui fais la boulette.
Excuse-moi,
à fois.
Mais c'est pas du tout la même chose parce que entre Apollon et Napoléon, physiquement, déjà, il y a
pas
un
même
monde,
délire.
Si je peux me permettre.
C'est son chien, voilà.
Oui, alors, c'est private joke, pour les gens qui nous écoutent là, c'est. Quoique non,
on a
parfois eu Apollon à l'antenne, enfin dans le studio.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc.
Mais c'est pas interdit.
Bah non, c'est pas interdit. Donc, Annie, tu voulais dire autre chose peut-être sur cette magnifique émission de rentrée.
Merci. Voilà, ça fait du bien.
Merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir été là. Et puis, je ne sais pas, on peut-être changer un joyeux anniversaire pour l'émission. Et c'est 6 ans aujourd'hui.
Joyeux.
Non. Je sais pas. Non, je ne veux pas. Déjà, il pleuvait tout à l'heure quand on est rentré. Enfin, le temps était à la pluie. Donc, je ne sais pas où ça en est tout de suite. Voilà. Et ben, j'en profite pour faire un coucou à tous ceux qui ont été membres de l'équipe à mes côtés dans Histoire de femmes. Il y a eu d'autres animatrices, d'autres co-animatrices. Il y a eu d'autres personnes à la technique, des garçons. Comme des filles, des hommes comme des femmes, et voilà, je les salue au passage parce que sans eux, cette émission, elle ne serait pas arrivée là où elle en est aujourd'hui. Voilà, eh bien bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et rendez-vous dans un mois. Vous pouvez toujours nous contacter, comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Bonsoir. Hein.
Je ne sais pas si c'est celle-là.
Graffiti. 19h-20h.
Tu vas au boulot, tu marches seul.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule. Salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Bah toi fillette.